Le mémorial de Sainte-Hélène par le comte de Las Cases. Préambule. J'entreprends d'inscrire ici, jour par jour, tout ce qu'a dit et fait l'empereur Napoléon durant le temps où je me suis trouvé près de lui, mais avant de commencer, qu'on me pardonne un préambule qui ne me semble pas inutile. Jamais je ne me suis attaché à aucune lecture historique sans avoir voulu connaître le caractère de l'auteur, sa situation dans le monde, ses relations politiques et domestiques, en un mot, les grandes circonstances de sa vie. Je pensais que là seulement devait se trouver la clé de ses écrits, la mesure certaine de ma confiance. Aujourd'hui, je me hâte de fournir à mon tour, pour moi-même, ce que j'ai toujours recherché dans les autres. Je vais donc, avant de présenter mes récits, mettre au fait de ce qui me concerne. Je n'avais guère que 21 ans au moment de la Révolution. Je venais d'être fait lieutenant de vaisseau, ce qui correspondait au grade d'officier supérieur dans la ligne. Ma famille était à la cour, je venais d'y être présenté moi-même. J'avais peu de fortune, mais mon nom, mon rang dans le monde, la perspective de ma carrière devait, d'après l'esprit et les calculs du temps, me faire trouver, par mariage, celle que je pouvais désirer. Alors éclatèrent nos troubles politiques. Un des vices éminents de notre système d'administration au service était de nous priver d'une éducation forte et finie. Sortis de nos écoles à 14 ans, abandonnés dès cet instant à nous-mêmes et comme lancés dans un grand vide, où aurions-nous pris la plus légère idée de l'organisation sociale, du droit public et des obligations civiles? Aussi, conduits par de nobles préjugés, bien plus que par des devoirs réfléchis, entraîné surtout par un penchant naturel aux résolutions généreuses, je fus des premiers à courir au dehors près de mon prince, pour sauver, disait-on, le monarque des excès de la révolte et défendre nos droits héréditaires que nous ne pouvions, disait-on encore, abandonner sans honte. Avec la manière dont nous avions été élevés, il fallait une tête bien forte ou un esprit bien faible pour résister au torrent. Bientôt l'émigration devint générale. L'Europe ne connaît que trop cette funeste mesure dont la gaucherie politique et le sort national ne sauraient trouver d'excuses aujourd'hui que dans le manque de lumière et la droiture du cœur de la plupart de ceux qui l'entreprirent. Défaits sur nos frontières, licenciés dissous par l'étranger, repoussés et proscrits par les lois de la patrie, grand nombre de nous gagnèrent l'Angleterre, qui ne tarda pas à nous jeter sur les plages du Quiberon. Assez heureux pour ne pas y avoir débarqué, je pus réfléchir au retour sur l'horrible situation de combattre sa patrie sous des bannières étrangères, et dès cet instant mes idées, mes principes, mes projets furent ébranlés, altérés ou changés. Désespérant des événements, abandonnant le monde et ma sphère naturelle, je me livrai à l'étude et, sous un nom emprunté, je refis mon éducation en essayant de travailler à celle d'autrui. Cependant, au bout de quelques années, le traité d'Amiens et l'amnistie du premier consul nous rouvrirent les portes de la France. Je n'y possédais plus rien, la loi avait disposé de mon patrimoine. Mais est-il rien qui puisse faire oublier le sol natal ou détruire le charme de respirer l'air de la patrie? J'accourus, je remerciai d'un pardon qui m'était d'autant plus cher que je pus dire avec fierté que je le recevais sans avoir à me repentir. Bientôt après, la monarchie fut proclamée de nouveau. Alors ma situation, mes sentiments furent des plus étranges. Je me trouvai soldat, puni d'une cause qui triomphait. Chaque jour, on en revenait à nos anciennes idées. Tout ce qui avait été cher à nos principes, à nos préjugés, se rétablissait. Et pourtant, la délicatesse et l'honneur nous faisaient une espèce de devoir d'en demeurer éloignés. En vain le nouveau gouvernement avait-il proclamé hautement la fusion de tous les partis. En vain son chef avait-il consacré ne vouloir plus connaître en France que des Français. Enfin, d'anciens camarades m'offraient-ils les avantages d'une nouvelle carrière à mon choix. ne pouvant venir à bout de vaincre la discordance intérieure dont je me sentais tourmenté, je me condamnais obstinément à l'abnégation, je me réfugiais dans le travail, je composais, et toujours sous mon nom emprunté, un ouvrage historique qui refit ma fortune, et alors s'écoulèrent les 5 ou 6 années les plus heureuses de ma vie. Cependant, les événements sans exemple se succédaient autour de nous avec une rapidité inouïe. Ils étaient d'une telle nature et portaient un tel caractère qu'il devenait impossible à quiconque avait dans le cœur l'amour du grand, du noble et du beau d'y demeurer insensible. Le lustre de la patrie s'élevait à une hauteur inconnue dans l'histoire d'aucun peuple. C'était une administration sans exemple par son énergie et par ses heureux résultats, un élan simultané qui imprimait tout à coup à tous les genres d'industrie, excitait toutes les émulations à la fois. C'était une armée sans égale et sans modèle, frappant de terreur au dehors et créant un juste orgueil au dedans. À chaque instant, notre pays se remplissait de trophées. De nombreux monuments proclamaient nos exploits, les victoires d'Austerlitz, d'Iéna, de Friedland, les traités de Presbourg, de Tilsit, constituaient la France la première des nations et l'arbitre des destinées universelles. C'était vraiment un honneur insigne que de se trouver français. Et pourtant, tous ces actes, tous ces travaux, tous ces prodiges étaient l'ouvrage d'un seul homme. Pour mon compte, quels qu'eussent été mes préjugés, mes préventions antérieures, j'étais plein d'admiration, et il n'était, comme on sait, qu'un pas de l'admiration à l'amour. Or, précisément, dans ce temps, l'empereur appela quelques-unes des premières familles autour de son trône et fit circuler, parmi le reste, qu'il regarderait comme mauvais français ceux qui s'obstineraient à demeurer à l'écart. Je n'hésitais pas un instant. J'avais, me disais-je, épuisé mon serment naturel, celui de ma naissance et de mon éducation. J'y avais été fidèle jusqu'à extinction. Il n'était plus question de nos princes. Nous en étions même à douter de leur existence. Les solennités de la religion, l'alliance des rois, l'Europe entière, la splendeur de la France m'apprenaient désormais que j'avais un nouveau souverain. Ceux qui nous avaient précédés avaient-ils résisté aussi longtemps à d'aussi puissants efforts avant de rallier le premier des Capets? Je répondis donc, pour mon compte, qu'heureux par cet appel de sortir avec honneur de la position délicate où je me trouvais, je transportais désormais librement, entièrement et de bon cœur, au nouveau souverain, tout le zèle, le dévouement, l'amour que j'avais constamment nourri pour mes anciens maîtres. Et le résultat de ma démarche fut mon admission immédiate à la cour. Cependant, je désirais ardemment à mes paroles joindre quelques actions. Les Anglais envahirent Flessingue et menacèrent Anvers. Je courus comme volontaire à la défense de cette place. Flessingue fut évacué et ma nomination de chambellan me rappela auprès du prince. À ce poste honorifique, j'avais besoin dans mes idées de joindre quelque occupation utile. Je demandai et j'obtins d'être membre du Conseil d'État. Alors se succédèrent des missions de confiance. Je fus envoyé en Hollande au moment de sa réunion pour y recevoir les objets relatifs à la marine, en Illyrie pour y liquider la dette publique et dans la moitié de l'Empire pour inspecter les établissements publics de bienfaisance. Dans nos derniers malheurs, j'ai reçu de 12 preuves qu'après moi j'avais laissé quelque estime dans les pays où j'avais été envoyé. Cependant, la Providence avait posé un terme à nos prospérités. On connaît la catastrophe de Moscou, les malheurs de Leipzig, le siège de Paris. Je commandais dans cette cité une de ces légions qui s'honora le 31 mars de la perte d'un assez grand nombre de citoyens. Au moment de la capitulation, je remis mon commandement entre les mains de celui qui venait après moi. Je me croyais à d'autres titres, d'autres devoirs encore auprès de la personne du prince, mais je ne pus gagner Fontainebleau à temps. L'empereur abdiqua et le roi vint à régner. Alors ma situation devint bien plus étrange encore qu'elle n'avait été 12 ans auparavant. Elle triomphait enfin cette cause à laquelle j'avais sacrifié ma fortune, pour laquelle j'étais demeuré 12 ans en exil au dehors et 6 ans dans l'abnégation au dedans. Elle triomphait enfin, et pourtant le point d'honneur et d'autres doctrines allaient m'empêcher d'en recueillir aucun bien. Quelle marche aurait été plus bizarre que la mienne? Deux révolutions s'étaient accomplies en opposition l'une de l'autre. La première m'avait coûté mon patrimoine, la seconde aurait pu me coûter la vie. Aucune des deux ne me procurait d'avantageux résultats. Le vulgaire ne verra là-dedans qu'une tergiversation fâcheuse d'opinion. Les intrigants diront que j'ai été deux fois dupe. Le petit nombre seulement comprendra que j'ai deux fois rempli de grands et d'honorables devoirs. Quoi qu'il en soit, mes anciens amis, dont la marche que j'avais suivie n'avait pu m'enlever ni l'affection ni l'estime, devenus aujourd'hui tout-puissants, m'appelaient à eux. Il me fut impossible d'écouter leur bienveillance, j'étais dégoûté, abattu. Je résolus que ma vie publique avait fini. Devais-je m'exposer au faux jugement de ceux qui m'observaient? Chacun pouvait-il lire dans mon cœur? Devenu français jusqu'au fanatisme, ne pouvant supporter la dégradation nationale dont, au milieu des baïonnettes ennemies, j'étais chaque jour le témoin, j'essayais d'aller me distraire au loin des malheurs de ma patrie. J'allais passer quelques mois en Angleterre. Comme tout m'y parut changé, c'est que je l'étais beaucoup moi-même. J'étais à peine de retour que Napoléon reparut sur nos côtes. En un clin d'œil, il se trouva transporté dans la capitale, sans combat, sans excès, sans effusion de sang. Je tressaillis. Je crus voir la souillure étrangère effacée et toute notre gloire revenue. Les destins en avaient ordonné autrement. À peine sus-je l'empereur arrivé de Waterloo que j'allais spontanément me placer de service auprès de sa personne. Je m'y trouvais au moment de son abdication, et quand il fut question de son éloignement, je lui demandai à partager ses destinées. Tels avaient été jusque-là le désintéressement, la simplicité, quelques-uns diront la niaiserie de ma conduite, que, malgré mes relations journalières comme officier de sa maison et membre de son conseil, il me connaissait à peine. Mais savez-vous jusqu'où votre offre peut vous conduire, me dit-il dans son étonnement. Je ne l'ai point calculé, répondis-je. Il m'accepta et je suis à Sainte-Hélène. À présent, je me suis fait connaître. Le lecteur a mes lettres de créance en ses mains. Une foule de mes contemporains sont vivants. On verra s'il s'enlève un seul pour les infirmer. Je commence.